Europe 1 Culture Média.
9h, 11h. Pascal Clark.
Bonjour, bonjour, vous dansez ? Rêve parti dans la Nièvre, vous dansez ? Rêve parti près d'Arcachon, ils ont dansé. Samedi soir, Nice, Baie des Anges, aux Platines, Béaveneur. Enfin se défouler, enfin suer des concerts, enfin la fête d'eau à la mer. Coller, serrer au diable les gestes barrières. Règlement respecté, moins de 5000 personnes entassées. Pas de masque, mais règlement respecté, aucune motion obligatoire. Aux dernières nouvelles venues, je cite, de l'île de Guyane, Jean Castex masqué déclare réfléchir à rendre désormais obligatoire le port du masque lors des grands événements, surtout dans les lieux clos. Et le Covid est prié de faire pause avant la décision. Que pensent les infirmières de ces images de foules non masquées, applaudies chaque soir à 20h, célébrées lors du 14 juillet? Le personnel soignant se satisfait-il d'une image rehaussée? Nous serons dans un instant avec deux blouses blanches, comme on les appelle, Bérangère d'Henri Mondor et Aude de la Timone. Demain, après un 14 juillet particulier, Emmanuel Macron répondra en direct de l'Élysée aux questions de deux journalistes, tout compte fait, retour de la tradition. Nous serons tout à l'heure avec Gilles Boulot pour TF1, est-il prêt ? À partir de 10h dans Culture Média, un réalisateur qui ose l'été sur grand écran, premier amour sur une plage normande avant tous ces virus qui courent, Covid ou Sida. François Ozon vient nous parler de son été, de son film Été 85, demain dans les salles. Culture Média est préparée par Julien Cotreau et Thibault Lambert et réalisée par Robin Le Borgne. Bienvenue, le journal des médias est annoncé. Et c'est vous, Martin Cangelosi, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Qu'avez-vous donc au sommaire ?
Ce matin, on règle ses comptes, Pascal, avec des plaintes de tous les côtés. Heureusement, on a la solution pour flâner tranquille au soleil, avec les gestes barrières.
Ah d'accord. Ah, vous les respectez, vous ?
J'essaye, vous aussi, non ?
Ouais, et les audiences, est-ce qu'elles respectent les gestes barrières ?
Les audiences. France 2 est devant TF1 vendredi soir avec sa série policière L'Art du Crime. Plus de 3 millions de téléspectateurs. Samedi soir, France 2 est encore en tête avec le retour de Fort Boyard. Gros carton pour Fort Boyard, 20% du public. 1 million de plus qu'il y a un an. Record depuis 11 ans, c'est un peu grâce à vous en fait.
Probablement.
Et là, vous devez me dire les audiences d'hier soir.
Ah c'est vrai, non, on va toutes les faire. Alors et hier soir, les audiences.
Hier soir, c'est TF1 qui reprend le lead après France 2. 4 millions de téléspectateurs, 20% du public devant le film américain US 2 Guns.
Et les audiences de ce soir, vous les avez déjà ?
On attendra demain.
D'accord.
C'est une excuse pour revenir.
Culture Média.
Et l'on commence ce journal des médias avec les révélations de Mediapart sur le journal Fakir.
Le journal Fakir aurait été espionné par des services de renseignement et de police. Alors ça c'est déjà énorme, mais ce n'est pas tout. Cette affaire d'espionnage aurait été commandée pour servir les intérêts du géant du luxe LVMH. Fakir, c'est le journal indépendant, vous savez, de François Ruffin. Le député Damien était journaliste dans une autre vie. Ce sont eux, Fakir et l'équipe, qui ont fait notamment le documentaire « Merci patron ». Ce documentaire qui justement s'en prenait à LVMH. César du meilleur documentaire d'ailleurs, merci patron. Bernard Squarcini en personne, ex-patron du renseignement intérieur, aurait permis toute cette affaire d'espionnage. C'est ce que révèle Fabrice Arfi de Mediapart. Il sera demain votre invité, Pascal.
Ah mais vous savez tout, vous m'écoutez ou quoi ? Bon, on continue. On continue avec On n'est pas couché, l'émission est terminée, mais en coulisses, on continue sévèrement à s'étriller.
Il était jusque-là resté discret, mais cette fois-ci, Laurent Ruquier se lâche. Je crois que c'est le mot, Pascal, il se lâche. Laurent Ruquier vient de prendre la parole dans M, le supplément week-end du Monde. Dans son viseur, sa productrice, Catherine Barma, enfin son ancienne productrice, celle de toujours. On commence par le comportement de Catherine Barma. Laurent Ruquier dégaine, grossier, vénal, pathétique. Mais ça, c'est juste pour la mise en bouche. Laurent Ruquier revient aussi sur ça. Écoutez bien.
Je vais remercier Coco aussi, qui me maquille depuis des années. Elle a de plus en plus de mal. Et Fred Assayag, qui sera au montage cette nuit pour cette émission. À très bientôt sur France 2, bien sûr.
C'était il y a une semaine. Est-ce que vous remarquez quelque chose, Pascal ?
Oui, comme un manque.
Comme un manque. Merci à la maquilleuse, merci au monteur. Rien pour Catherine Barma, la productrice. Voilà ce que déclare Laurent Ruquier. J'aurais aimé pouvoir lui dire merci. Son hypocrisie, sa lâcheté, sa vénalité m'en empêche. Et il menace, si elle souhaite qu'un jour la justice s'en mêle, nous réglerons ça devant les tribunaux.
Et pourquoi devant les tribunaux, Martin ?
Il va falloir licencier une partie des gens qui bossaient sur On n'est pas couché. Catherine Barma exige désormais que son ancien chouchou paye une part des indemnités de licenciement. Et ça ne s'arrête pas là. Catherine Barma accuse Laurent Ruquier de plagiat. L'animateur sera toujours là le samedi soir avec un nouveau talk show.
Un talk show qui sera cette fois en direct. Décidément, ça chauffe à la télé. Francis Lalanne, lui aussi, veut attaquer ses producteurs.
Ça vous fait rire, on en parlait il y a quelques instants.
À peine sourire.
Gros carton pour le retour de Fort Boyard. Mais voilà ce que vous n'avez pas entendu ce samedi.
Il vous faudra reconnaître deux des trois morceaux interprétés dans un temps imparti par Mademoiselle.
Alors ça, c'est Narcisse. Narcisse, c'est un troubadour complètement barge dans Fort Boyard, interprété par Francis Lalanne. Mais ce samedi, Narcisse, il était comme enfermé dans la cage au tigre. On ne l'a pas vu. Selon Le Parisien, Francis Lalanne vient de saisir le défenseur des droits, pour discrimination.
Discrimination envers les bottes, peut-être ?
Non, parce que Francis Lalanne, plus simplement, il est persuadé qu'on lui en veut parce qu'il était la tête de gondole aux élections européennes d'une liste de gilets jaunes. La production, elle, a une autre explication. Narcisse était juste démodé et on a souhaité le remplacer par un autre personnage.
Et l'on termine, Martin, avec Ouest France qui lance une opération spéciale.
Et il ne reste plus que 800 places sur les 7100 qui étaient disponibles. Parce que si vous avez acheté Ouest France hier, Pascal, vous avez pu découvrir à l'intérieur un petit code à entrer sur votre téléphone. C'est un ticket à gagner. Un ticket pour visiter gratuitement un musée ou un monument en Normandie, dans les Pays de la Loire ou en Bretagne. On a posé la question à Philippe Lemoine, rédacteur en chef de Ouest France.
Ça peut être le musée de l'automobile à l'Oéac, Océanopolis à Brest, le château de Suciniau, le château de Josselin. Et on se dit que les gens ils prennent une place et ils vont sans doute y aller avec, en famille, avec les enfants. Donc ça permet de faire venir de la clientèle dans ces lieux qui en ont bien besoin, puisque le confinement leur a coûté très cher. Les trois mois de fermeture, dans les trésoreries, ils font mal. Je pense que c'est le rôle d'un journal comme Ouest France, qui est ancré dans son territoire, qui est proche de ses lecteurs, et proche de la vie, quelle qu'elle soit, sur son territoire, que ce soit la vie économique, la vie culturelle.
Ouest France, très engagé dans la vie de son territoire. Rappelons que c'est le premier quotidien en France devant Le Figaro et Le Monde, avec près de 600 000 exemplaires.
Énorme. Merci Martin Cangelosi, bonne journée à vous et à demain matin. Musique, mon choix du jour, Manu Chao. Bonjour.
Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. But I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hear me when I come, baby.
Hit me when I come. Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus, mon amour.
Manu Chao, je ne t'aime plus, mon amour, même pas vrai. À suivre sur Europe 1, Aude et Bérangère, profession infirmière. Une belle image suffit-elle ? C'est lundi, hein ? A tout de suite pour Culture Média.
9h, 11h,
Europe 1, Culture Média.
Pascal Clark.
Demain matin, le défilé du 14 juillet les mettra à l'honneur. Hommage aux soignants, civils et militaires engagés dans la lutte contre le Covid-19. Demain après-midi, une partie de ce même personnel soignant est appelée à manifester à Paris pour obtenir davantage que ne le prévoit le Ségur de la Santé. Y aurait-il comme un léger décalage dans l'image des soignants, applaudis à 20h, invisibles dans leur quotidien le reste du temps? Culture Média donne ce matin la parole à deux infirmières. Bérangère, bonjour.
Bonjour.
Vous travaillez en réanimation à l'hôpital Henri Mondor de Créteil, en région parisienne. Je crois que vous sortez d'une garde, c'est ça ?
C'est ça.
Oh, merci d'être là. C'est quelle heure, la garde ?
19h, 7h.
Oui, quand même. Vous avez 9 années d'ancienneté. Est-ce que l'hommage demain matin du 14 juillet vous touche ?
Je pense que l'accueil de ces applaudissements des hommages qui ont été faits aux soignants... L'accueil est assez mitigé auprès de la profession.
C'est-à-dire mitigé
Mitigé, je dirais qu'il y en a qui ont été touchés par ces attentions et d'autres qui sont un peu plus prudents, sceptiques dans ce que ça veut dire.
Et vous ?
Moi, je suis plutôt sceptique.
Ah ouais ? Sur quel thème ? Alors, où est la restriction ?
La restriction, c'est qu'en fait, on a tellement de moments où on se sent seul dans nos services, avec des problématiques qui nous dépassent complètement et pour lesquelles on essaye d'alerter l'opinion publique et autres dirigeants. Et il y a une sourde... Enfin, voilà, les gens sont sourds à nos attentes. Et là, c'est vrai que le Covid nous met à l'honneur, entre guillemets, et on a une espèce de mise en lumière qui me semble disproportionnée par rapport au reste du temps où on a l'impression qu'on donne vraiment beaucoup et pour lesquels on aurait besoin justement de peut-être d'applaudissements, peut-être sur d'autres périodes aussi. Mmh. Voilà, on a une charge de travail qui est conséquente.
Pas qu'en temps de crise, c'est ça. Je vous présente l'une de vos collègues de Marseille. Bonjour Aude.
Bonjour.
Je précise que comme pour Bérangère, je ne donne pas votre nom de famille à votre demande. Pourquoi d'ailleurs ?
Pour des questions de confidentialité auprès de nos services, et je pense parce que on prend la parole un peu pour une profession et pas en caractère individuel.
D'accord. Aude, vous travaillez à l'hôpital de la Timone, également en réanimation. Je signale que vous tenez un compte Instagram, c'est arrobase dans notre monde. Ce sont des photos, de belles photos d'ailleurs, hein, prises dans votre hôpital. Pourquoi ce compte ? Vous estimez que votre métier est trop peu connu, trop peu visible ?
Le compte Instagram a pris naissance pour plusieurs raisons. On était au milieu de la crise, mais on entendait beaucoup de choses sur notre métier et on n'avait pas vraiment d'image objective de ce qui se passait à l'intérieur. Et pour une fois, on voulait que ce soit nous qui montrions ce qui se passait en réanimation, en fait. Donc, on a créé ça pour montrer nos propres images.
Mmh. Parce que vous avez le sentiment, Aude, que votre métier d'infirmière, et notamment en réanimation, est fort mal connu.
Oui, surtout en réanimation, parce que c'est un monde à part, parce que c'est un monde aussi qui fait peur. Quand on est confronté à la réanimation, généralement, c'est pas dans des conditions très gaies. Donc, on essaye de ne pas connaître ça. Tant mieux, d'ailleurs. Mais oui, on n'est pas connu et on n'a pas beaucoup la parole, en fait. Mmh. On reste un petit peu dans l'ombre.
Alors, Aude Bérangère, on va commencer tout de suite par l'une des images du week-end. Hein, le DJ Avner faisant danser samedi soir à Nice. Une foule dense, sans masque. C'était en extérieur, mais quand même. C'était moins de 5000 personnes, mais quand même. Bérangère, quand vous voyez ces images, vous l'avez vu, j'imagine, de gens, enfin, si je vous la décris, donc plusieurs milliers de personnes, des jeunes, hein, dansant, sans gestes barrières, évidemment sans masque, face à un DJ. Quand vous voyez ça, quelle est votre réaction ?
Je pense que c'est pas très prudent. Après, c'est pas, je pense pas que ce soit ma position à moi de donner ce genre d'avis. Je pense que effectivement, le plus prudent ce serait de garder, de rester dans la prudence de ce qui va se passer. Et effectivement, de continuer malheureusement à faire attention à des choses qui, bien sûr, nous pèsent au quotidien. Nous on le voit bien, on est masqués depuis des mois à l'hôpital. Du matin au soir, et c'est vrai que c'est très pesant de mettre de la distance en permanence, mais je pense que c'est nécessaire.
Maintenant, vous avez des masques, remarquez, c'est bien.
Oui.
Oui.
Aude, vous les avez vues, ces images de Nice ?
Oui, je les ai vues.
Et alors ?
Après, c'est une vie sociale qui reprend son cours, bien sûr, il faudrait de la prudence, mais c'est plus de manière générale qu'il y a un souci d'information et de l'incohérence dans ce qui se passe dans cette crise et surtout dans le milieu du soin.
Mmh. Aude, vous avez probablement des images en tête au plus fort de la crise du Covid, quand on se demandait si oui ou non le système hospitalier allait couler. Vous en avez une image en particulier ?
L'image, elle est passée par l'économie de moyens, l'économie de matériel, ou les soignants, les gens de terrain, parce que pour une fois, ce n'était pas géré sur le terrain par les administratifs, mais plus par le personnel médical et par vraiment des gens qui font partie des équipes. L'image, c'est quand on cloisonne un service, quand on restreint des moyens et qu'on demande encore une fois aux soignants de faire des efforts sur leur nombre de pauses, sur leur nombre de secteurs, sur le personnel qu'ils vont former, sur leurs vacations, pour arriver à affronter cette crise.
Mmh. Bérangère, rapidement, une image terrible que vous avez en tête, peut-être ?
Moi, j'ai des souvenirs surtout plus humains, de l'ordre tout ce qui incombe à notre responsabilité, le poids de notre responsabilité, ce qu'on vit au quotidien le reste du temps, mais là encore plus, c'est-à-dire que on a à charge des patients qui sont forcément très lourds, avec du personnel qui est pas forcément formé, dans un contexte où on ne s'est pas forcément sécurisé. Voilà, donc j'ai des très mauvais souvenirs de moments comme ça, d'insécurité.
Hommage au personnel soignant pour le 14 juillet demain, une bien belle image, et peut-être comme un décalage culture-média, il revient sur Europe 1, c'est après la pub.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Aude est infirmière au service réanimation de l'hôpital de la Timone à Marseille. C'est pour ça qu'on entend les cigales. Bérangère au service réanimation de l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Bon, forcément, on va réécouter cela sur les balcons ou ailleurs, le clapping de 20h. Chaque soir, pendant des semaines, Aude, je vous vois un petit peu faire l'amour, on va dire ce qui est. Ça vous a quand même porté ou alors vous avez trouvé que c'était... c'est Bérangère, oui, j'ai confondu avec Aude. Pardon Bérangère, je vous vois donc faire l'amour. Ça vous a porté ces applaudissements ou il y avait un petit décalage qui vous gênait ?
Non, c'est ça, je pense que c'est bien dit, il y a un petit décalage. On dit pendant très longtemps, je pense que ce qui nous a mis dans la rue... c'est vraiment la sécurité des patients. Je pense à la base, il y a autant de... On n'est pas une catégorie professionnelle qui fait facilement grève. Je pense que voilà, ce qui révolte la plupart du personnel, c'est vraiment les conditions de travail et le fait qu'on ne puisse plus absorber la charge de travail qui devient de plus en plus lourde pour plusieurs raisons. Et le fait qu'on le dise depuis si longtemps, qu'on soit si peu entendu et que là, il a fallu qu'il y ait une grosse crise sanitaire pour qu'on puisse avoir un peu de reconnaissance, un petit peu d'écoute. C'est vrai que c'est un petit peu, je trouve ça un petit peu dommage, et effectivement, je trouve ça un petit peu décalé par rapport à nos attentes qui datent de il y a plus longtemps que ça.
Aude, à Marseille, il y avait quand même du réconfort dans ces applaudissements, non ?
Non, je rejoins Bérangère. Il y a un gros décalage. On ne fait pas ce métier à la base pour obtenir de la reconnaissance. Mais la reconnaissance, la plupart du temps, on l'a auprès de nos patients par des attentions, un regard, une satisfaction au cours d'un soin. Là, on s'est retrouvé mis sous les feux de projecteurs avec des remerciements de la population sur un contexte qui est ponctuel. Alors que notre métier, c'est toute l'année, c'est tout le temps. Et la crise sanitaire... C'est maintenant, c'est vrai, mais ça n'a pas empêché les prises en charge habituelles. Le Covid, c'est une pathologie parmi toutes celles qu'on reçoit, et on manque de moyens, et on manque de soutien, et on manque d'effectifs. Donc, quand je parle de moyens, ce n'est pas que matériel, c'est surtout humain au quotidien. Donc oui, on nous applaudit, mais on a besoin d'autre chose en fait.
Alors peut-être avez-vous besoin d'argent, je tente cette piste, hein. Vous avez obtenu une prime de 1500 euros. Le Ségur...
Une prime qui fait grand débat, car pas tout le monde n'a touché cette prime, d'ailleurs j'en profite pour le dire. Il va y avoir une belle révolte là-dessus, puisqu'on nous a annoncé une prime que tout le monde toucherait. Et il y en a beaucoup, beaucoup qui ne la touchent pas pour des critères qui ne sont pas en rapport avec la réalité. Ils ont pris une date, par exemple, qui est nationale, alors que selon les régions, ça ne touche pas les mêmes, oui. Ça ne touche pas les personnes de la même façon. Et ils n'ont pas considéré tout le personnel soignant, alors que tout le monde a participé à la crise.
Bérangère, le...
Par contre, les administratifs l'ont touché.
Ouais. Ah oui, il faut être bien de préciser. Bérangère, le Ségur de la Santé, la CRI prévoit une augmentation de 180 euros net par mois. Signature prévue cet après-midi à Matignon. Vous dites c'est déjà ça ou...
Non, je ne me dis pas c'est déjà ça. Je me dis que c'est... En fait, ce qui me révolte le plus, je pense, dans ce Ségur, c'est vraiment le manque d'écoute de la profession. Je pense que nos attentes, elles sont autres que, effectivement, une revalorisation salariale. Ce qu'on attendait, effectivement, c'était au moins un alignement avec le salaire des pays de l'OCDE, puisqu'on n'y est même pas.
La France est en bas de la liste. Hein.
Voilà, on y sera toujours. Et surtout, la conclusion, c'est qu'en fait, ça ne changera strictement rien à l'attractivité de notre profession, quel qu'il soit, et que en fait on aurait besoin déjà d'être entendu. On a très peu de représentants infirmiers au comité Ségur, hein, on n'a que le président de l'ordre infirmier. Toutes les associations infirmières n'ont pas été conviées, n'ont pas été entendues. Donc du coup, voilà, c'est un peu un échec, je trouve, sur plusieurs points. En fait, je n'ai pas l'impression que les paramédicaux ont été gagnants avec ce Ségur.
Aude, on vous sent désabusé aussi, c'est le mot ?
Oui, je rejoins complètement Bérangère. Il y a un manque d'écoute. En fait, c'est tout ce qu'il nous faudrait déjà de base, de l'écoute. La reconnaissance, elle passerait par là. On est un petit peu pris, beaucoup pris même en otage dans ce Ségur, mais de manière générale, puisqu'on ne fait pas grève, on tient toujours notre poste. Par conscience professionnelle, on est toujours au chevet des patients. Et les jours où on pourrait faire grève, on est réquisitionné, donc on tient encore notre poste. Mais c'est pas pour ça qu'on doit pas nous entendre, parce qu'on l'a vu, quand il faut être là, on est toujours là.
Bon, il y a quand même des places de camping gratuites ou des chambres d'hôtel à Ibiza gratuites pour le personnel soignant. Le maillot du PSG vous rendait hommage hier soir. Est-ce que vous êtes invité ce soir à l'Opéra Garnier, Bérangère, à Paris, pour la soirée hommage au personnel soignant ?
Non, je suis pas conviée.
Comment ça se fait ?
Je ne sais pas.
Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin dans Culture Média. Merci Aude à Marseille, Hôpital Latimone. Bon courage à vous. Merci Bérangère. Pardon ?
Est-ce que je pourrais juste finir sur un...
Bien sûr.
Voilà, je comptais finir en fait sur deux questions qu'il faudrait se poser. Je pense que notre sous-représentation à tous les, sur tous les plans, et je pense qu'elle est liée principalement à un manque d'écoute. Donc c'est une responsabilité collective que les soignants seuls, donc c'est-à-dire que je parle de la population, les gouvernants, donc la responsabilité est collective, que les soignants seuls ne peuvent pas assumer. Donc voilà, les deux questions qu'il faut se poser, je pense, c'est dans quelles conditions voulez-vous être soigné, et encore plus loin, dans quelles conditions voulez-vous que votre proche soit soigné.
Voilà, les questions sont posées. Je ne sais pas qui donnera la réponse. Merci Aude à Marseille. Merci Bérangère ici en studio et bon courage à vous deux. Après les cérémonies Place de la Concorde à Paris, demain Emmanuel Macron répondra aux questions des journalistes Léa Salamé et Gilles Boulot. Gilles Boulot est avec nous dans un instant. Non, pas Macron, Boulot.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Encore un gros taf avant de partir en vacances. Journée fériée chargée demain pour le journaliste Gilles Boulot à l'antenne dès 7h du matin pour un 14 juillet particulier, ponctué par l'interview dans les jardins de l'Élysée du président de la République. Bonjour Gilles Boulot.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Oh là, merci de prendre le temps de répondre aux questions de Culture Média. On va commencer par ce rendez-vous très ancien monde hein, de demain sur le coup de 13h10, 13h15 dans les jardins de l'Élysée. Finalement, pour la première fois, Emmanuel Macron cède à la tradition d'une interview face à deux journalistes comme avant. Pourquoi selon vous, alors qu'il ne l'avait jamais fait? Vous avez une idée?
Non, j'ai pas d'idée. Mon sentiment, mon instinct, c'est qu'il s'est passé tellement de choses dans notre pays depuis un an ou 18 mois que peut-être avait-il envie de renouer avec le lieu, la date et l'exercice. Mmh. Voilà, c'est mon sentiment. C'est pas une certitude. Mais voilà, je pense que c'est ça.
C'est un duo inédit. Hein. Demain, vous êtes aux côtés de Léa Salamé pour France 2. Qui a choisi le casting, les chaînes de télé ou l'Élysée? Ça s'est passé comment, cette histoire?
Moi, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que c'est mon patron, Thierry Tuilier, et le patron de France Télé qui se sont mis d'accord et qui nous ont demandé et nous avons donné notre accord. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, nous n'avons pas été préemptés, choisis. C'est pas totalement comme ça que les choses se passent.
Ah bon, parce qu'il paraît que c'est vous qui avez d'abord été choisi par l'Élysée, Gilles Boulot, pour TF1. Et du coup, il fallait, au nom de la parité, une femme sur France 2. Vous n'avez pas entendu parler de ça?
Non, mais vous en savez plus que moi. Et je ne suis,
non,
pas tellement un homme
qui... que moi je le dis.
Non, moi je ne suis pas tellement un homme qui se fait choisir en général. J'essaie de faire en sorte que les choses se fassent naturellement. Je ne sais pas. Je pense que les choses se font naturellement. Moi, j'étais dans le 14 juillet, j'étais dans le défilé. Et donc, je fais ce que j'avais fait il y a quelques années, déjà avec François Hollande, hein, c'est-à-dire une interview du 14 juillet à l'Élysée après le défilé.
Ouais. Où en êtes-vous là? Donc, c'est demain. Hein, où en êtes-vous dans la préparation et comment travaillez-vous pour cette interview assez exceptionnelle, il faut le dire?
Je pourrais vous dire que tout va bien et que j'ai le temps de tout faire. La vraie vérité, c'est que je jongle un peu entre les 5 heures d'antenne et 6 heures d'antenne d'avant, c'est-à-dire le défilé est formidable qui va être, puisqu'il y a défilé, il faut le rappeler, il y a bien défilé. Donc l'émission spéciale qu'on va diffuser sur TF1 à partir de 7 heures, et puis je vais m'exfiltrer vers midi à peu près pour partir de la place de la Concorde pour aller à la... pour aller à l'Élysée, et donc je suis un peu sur les deux fronts, quoi, comme un chef cuisinier qui fait à la fois l'entrée, le plat, le dessert. Donc j'écris mes textes pour toutes les séquences du défilé, et puis avec Léa Salamé, on bosse dur pour essayer de peaufiner nos questions, de trouver un ordre, des chapitres, de la pertinence, mais en même temps, c'est un continuum, parce que ce défilé qui est tellement à part, qui a failli peut-être ne jamais avoir lieu, qui finalement aura lieu, il est quand même très connoté par ce qui s'est passé cette année, c'est-à-dire la crise sanitaire, c'est-à-dire les 25 soldats morts dans les opérations extérieures. Donc, c'est pas un exercice si grand écart que ça.
Quand même, les thèmes de l'interview, la trame de l'interview, oui ou non, sont-ils soumis à l'Élysée?
Moi, je ne soumets jamais rien. Je n'ai jamais rien soumis, je ne soumets jamais rien. Même avec Vladimir Poutine en 2014, je ne soumets jamais rien. Je ne fais jamais lire mes questions. Si on me demande à un moment, est-ce que vous parlerez du premier vol des frères Montgolfier à Annonay, je dis non. Mais sinon, je veux pas. En fait, c'est pas
ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais des choses comme ça, que l'Élysée veuille savoir quel est l'ordre, quelle est la nature des thèmes.
C'est tellement évident. Ça va tellement de soi. Enfin, je sais pas. Je pense vous demanderiez à un élève de première, dis-moi, demain c'est le 14 juillet, tu vas rencontrer le président de la République. Tu vas un petit peu regarder la télévision, lire les journaux, écouter la radio. Qu'est-ce que tu as envie de lui poser comme question? J'imagine. Là, franchement, je ne viole aucun secret d'État. il serait quand même un peu ballot de ne pas poser de questions sur la crise économique, le coronavirus et ces choses-là. Donc j'imagine, et donc si Emmanuel Macron écoute l'antenne d'Europe 1 ce matin, il y aura des questions là-dessus. Il en est averti, mais je ne pense pas que ce soit une énorme surprise pour lui.
Jean Castex, évidemment. Gérald Darmanin à l'intérieur sous le coup d'une enquête, oui ou non ?
Je ne vous réponds pas à ça.
Ah bon ?
Mais non, mais je ne fais pas. Mon principe, ce n'est pas tellement que la personne que je vais interviewer, quelle qu'elle soit, sache avant. C'est que je veux être libre de poser à un moment ou à un autre la question que je veux, dans la formulation que je veux, et surtout je veux de la fraîcheur. Moi, mon principe, là c'est à part, ça se passe à l'Élysée, quand c'est à TF1, je ne veux pas rencontrer la personne avant. Je la croise, je ne veux pas la croiser au maquillage, je ne veux pas qu'il y ait de connivence, d'hostilité, de « alors on est bien d'accord », c'est très sain et très simple. Et j'ai le sentiment que toute couleur, toute orientation politique confondue, les hommes et les femmes politiques avec qui j'ai des interviews m'en savent gré. Donc je continue comme ça, c'est une recette vraiment très simple.
Vous avez déjà la première question quand même ?
Ah ben là, on la bosse depuis 3 jours avec Léa, ouais, bien sûr.
Ce sera vous ou Léa Salamé ?
Vous verrez, regardez TF1 à 13h10, surprise.
À mon avis, vous allez la laisser aller à Salamé, tel que je ne vous connais pas.
On verra, Pascal. En tout cas, votre question est pertinente, mais je ne vous en dirai pas plus sur l'interview, parce que je me suis promis de ne pas en dire trop, parce que je pense qu'il ne faut pas déflorer les choses. Mais en tout cas, dans l'ordre des questions et la chorégraphie des questions, c'est à peu près la seule chose à peu près certaine. Puisqu'une interview, surtout celle d'un président de la République un tel jour, c'est comme les plans de bataille du général Patton. C'est-à-dire que vous faites des plans de bataille et au premier coup de canon, tout s'effondre. Donc vous faites des questions, 28, 35, 40, 60 questions, vous mettez un ordre, vous essayez de jouer aux échecs en disant « Ah, s'il me répond ça, je lui répondrai ça, et puis Léa fera ça. » Et en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est pas grave, vous faites un plan de bataille, même s'il n'y a rien d'hostile dans ma démarche, vous faites un plan pour avoir un plan. Et après, vous faites une partition et vous faites du jazz après. Vous
en tout cas, c'est bien parti. Vous avez déjà quelques références militaires pour un 14 juillet, c'est bien. J'en ai encore quelques-unes de questions sur vos questions, Gilles Boulot. On revient dans 2 minutes dans Culture Média. Surtout, ne quittez pas.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Pascal Clark.
Gilles Boulot, TF1, interview Emmanuel Macron demain vers 13h10, 13h15 aux côtés de Léa Salamé pour France 2. Il est en direct dans Culture Média ce matin. Vos faits d'armes présidentielles, Gilles Boulot, 14 juillet 14, vous le rappeliez tout à l'heure, vous aviez interrogé le président François Hollande aux côtés de David Pujadas, pas de parité à l'époque. Et vous avez par ailleurs déjà interviewé Emmanuel Macron en octobre 2017 aux côtés d'Anne-Claire Coudray et de David Pujadas, un trouble à l'époque. En quoi une interview d'Emmanuel Macron est-elle compliquée ? Le plus compliqué, c'est d'avoir accès à sa pensée complexe, non ?
Non, c'est pas ça. Moi, je trouve que chaque... Enfin, des présidents français ou anciens présidents, j'en ai interviewé que 3, qui est Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Je pense que chacun induit une difficulté et donc une maïeutique différente. On ne va pas trahir de secret. Par exemple, François Hollande, par nature, par tactique, par structure grammaticale, est quelqu'un qui se laisse interrompre. Sarkozy, pas vraiment, mais vous pouvez. Grammaticalement et par structure de pensée, Emmanuel Macron, c'est un peu différent.
C'est-à-dire ?
Ses phrases ne sont pas structurées différemment. Donc l'interrompre ne passe pas par la même chose. Ça peut passer par du gestuel, voilà. Et puis il y a un charme et une difficulté supplémentaire, c'est le fait d'être seul à 2 ou à 3. C'est pas pareil. Donc
c'est mieux tout seul, honnêtement. C'est mieux face à face, non ?
Je suis pas sûr de ça. Ah non, je suis pas certain que être seul soit. Non. Je suis pas convaincu de ça. On pourrait peut-être écrire un livre entier sur de l'art d'interviewer les politiques. Moi, je suis assez d'un naturel assez partageur.
Mais à 3, c'est trop.
Ben non, c'est aussi. On s'en était. Enfin, je ne suis pas très bon juge de ce qu'on a fait, mais avec David et Anne-Claire, on s'était plutôt bien sortis en septembre 2017. Et puis moi, j'aime bien le fait que la personne interviewée ne sache pas trop s'il y a une tactique, un partage des rôles entre X et Y, entre les 2 ou les 3. Ça, j'aime bien dans l'incertitude. Parce que dans cet inconfort, naît de la vérité. Moi, je ne suis pas là pour, pour bastonner. Je suis pas procureur, je ne suis pas et je ne suis pas scribe. Je suis pas là pour recueillir la sainte parole de tel ou tel président. En même temps, voilà, je suis pas procureur ou huissier de justice.
On a le sentiment que vous avez regardé des anciennes interviews d'Emmanuel Macron de la même façon qu'une équipe de foot observe la technique de son adversaire. C'est un peu ce sentiment-là qu'on a. Vous avez vraiment.
D'abord, j'ai relu toutes les interviews que j'avais faites avec lui, avant la présidentielle et après. Et puis au bout de quelques interviews, vous connaissez un petit peu la manière. Je ne dis pas que c'est le secret d'une interview réussie, mais interrogez-vous, Pascal, qu'est-ce que c'est qu'une interview réussie ? C'est une interview...
C'était la question d'après ?
Non, mais c'est ça. Est-ce que c'est une interview où vous avez fait rendre gorge, etc. Ou est-ce que c'est une interview où... Les interviews, enfin, moi je suis un passeur, je suis là pour poser les questions que vous-même vous vous posez, quelle que soit votre couleur politique, quel que soit votre âge, votre degré d'éducation, le lieu de... que vous ayez voté Macron, pas Macron, que vous ayez manifesté pour lui ou pas, je veux juste qu'à la fin de l'interview, on se dise, ok, Léa Salamé, Gilles Boulot, ils ont fait du bon taf.
Oui, mais tout le monde, voilà, ça sera subjectif, il n'y a pas de vérité non plus, donc réussir, rater, bon...
Non, il y a quand même une vérité. Le seul reproche que je n'accepte pas, c'est quand on me dit, nom de Dieu, pourquoi tu n'as pas posé telle question ? Je leur réponds, une interview, ça ne se finit pas à la bougie. Si vous finissez une interview à 14h ou 14h10, vous avez une heure pour faire une interview, c'est pas pareil que 2h, 3h ou une thèse d'État. Donc, moi, avec Léa, on a fait des wagons de questions, et il faudra qu'on en fasse notre deuil. Toutes ne seront pas posées, parce qu'elles n'ont pas encore été posées. Donc, si... Parce que c'est passionnant, là encore, je ne travaille pas de secret, sur le coronavirus, sur l'économie, sur la relance, que sais-je. On perd du temps, avec beaucoup de guillemets à perdre, c'est-à-dire qu'on investit du temps et on va dans le détail ou des chiffres, ou des... ça n'est pas du tout du temps perdu, et bien ce temps-là ne se rattrapera pas. Et oui, il n'y aura peut-être pas la question très intelligente à laquelle Léa et moi avions pensé sur tel et tel problème. Mais ça, on ne peut pas en faire le reproche aux intervieweurs. Ou alors vous faites un livre avec Emmanuel Macron, avec Sarkozy, avec François Hollande. C'est pas l'objet. Donc moi, je veux juste contraindre, c'est le seul élément de contrainte que j'aime dans une interview, c'est contraindre la personne qui répond à avoir une pensée claire et des réponses précises, sortir de l'ambiguïté, sortir de la politique pour parler concrètement, expliquer qui on est, ce qu'on fait et avec qui. Quand je sors d'une interview avec ce sentiment-là, je suis satisfait. Mais là, il y a une grande difficulté, que vous soyez à deux ou à trois, c'est qu'il faut être deux pour danser le tango. Donc si la personne interviewée n'est pas dans un bon jour, si elle est trop fermée, si elle se laisse trop interrompre ou pas assez, l'interview est ratée. Ouais. Mais elle est ratée pour tout le monde.
Et ça, vous le saurez assez vite.
Pour le président et pour moi.
Vous le saurez assez vite, ça, probablement.
Oui, je pense.
Vous aurez le trac rapidement. Et comment est-il, votre trac ?
Je suis plus fatigué que tracker, là, en ce moment. Je suis plus dans les doubles préparatifs du défilé qui va être génial parce qu'on va faire des séquences qui vont être très intéressantes puis qui seront, je pense, émouvantes parce que c'est une cérémonie où il n'y aura pas que des militaires, il y aura des soignants, il y aura des assistantes maternelles, il y aura des routiers, il y aura des éboueurs. Enfin, moi, c'est mon 7e, 8e ou 10e 14 juillet. J'ai jamais fait ça. D'habitude, vous interviewez des militaires.
Des militaires exclusivement, oui. Merci beaucoup, Gilles Boulot. On en a terminé de notre temps imparti. Merci d'avoir répondu aux questions de Culture Média et bonne fin de préparation à vous. Demain, 14 juillet, défilé, interview présidentielle, mais aussi été 85 dans les salles. Le réalisateur François Ozon est attendu dans la deuxième heure de Culture Média. Belle matinée à vous écoutez Europe 1.